Vous êtes sur RTL.
Et nous accueillons Robert. Bonsoir Robert.
Bonsoir Sabine. Bonsoir. Merci de m'accueillir à l'antenne.
Avec plaisir. De quoi souhaitez-vous nous parler Robert?
Alors, il m'est arrivé il y a trois, quatre mois. C'est un immeuble qui est tombé sur moi. J'ai eu un accident vasculaire cérébral, un AVC, en pleine rue, dans la ville où j'habite. Et depuis, les gens qui ont eu ça le savent très bien, ça ne va pas. Il y a une immense fatigue, une perte de l'écriture, mais surtout une fatigue énorme.
Alors là, vous êtes à quelques mois après l'accident, hein, c'est ça que vous dites?
Oui, 4 mois à peu près. Oui. 4 mois. Donc j'ai fait une semaine d'hôpital, à l'hôpital, et ensuite bon, je suis rentré chez moi, et on est à 4 mois de l'accident lui-même.
Oui. Voilà.
Alors ce que je n'arrive pas à admettre au fond de moi-même, c'est d'être limité, sa limitation.
Et oui.
Voilà. C'est ça que j'arrive pas à admettre. Quoique je continue à travailler, hein. Je travaille, mais je suis très très fatigué et je suis en rééducation.
Vous pensez que la fatigue vient aussi de la rééducation parce que ça demande un effort physique et mental énorme de récupérer après un AVC, enfin de faire des progrès et de tenter de regagner certaines fonctions. Vous pensez que la fatigue peut venir de là?
Alors oui, en partie oui, mais surtout il me semble, hein, moi c'est ce que je ressens, c'est la limitation, être limité.
Oui.
Voilà. Mais ça, je ne supporte pas.
Mais oui, vous êtes dans la perte, en fait. Vous avez perdu des choses que vous aviez avant.
Voilà.
Et là, pour l'instant, vous le vivez comme un moi radical.
C'est ça.
Dans votre vie.
C'est ça. J'arrive pas à m'y faire. 4 mois après, j'arrive pas à j'ai perdu un peu de la parole. Hein. Bon, d'écriture aussi.
Pourtant, vous semblez vous exprimer très bien. Là, vous écoutez.
J'ai un peu perdu un tout petit peu. Mais par contre, j'ai perdu l'écriture. Ça va revenir, hein.
Oui.
Je pense que ça va revenir. Et puis, il y a le fait de travailler au ralenti, de s'arrêter, de faire des pauses. Tout ça, c'est très, très difficile.
Oui.
Très difficile.
Là, pour l'instant, Robert, vous êtes en arrêt maladie? Vous...
Alors,
comment
je continue
ça se passe
à travailler.
Travail
voilà. Moi, je suis en indépendant.
Oui.
Donc, on a été très impacté par la crise sanitaire.
Ben oui.
Et en plus, donc, il y a le fait que je travaille un peu au ralenti, en fait. Hein.
Vous êtes dans un métier intellectuel, manuel?
Intellectuel, oui. Je suis indépendant.
Oui.
Mais bon, je suis plutôt quelqu'un d'actif, quelqu'un qui court, etc.
Oui.
Et là, j'arrive plus. Enfin, j'y arrive moins, plutôt. J'y arrive moins.
Est-ce que ça met en danger votre activité ou c'est dans un rapport à vous-même que c'est difficile à vivre?
Ah non, c'est par rapport à moi-même.
Oui.
J'arrive pas à me lier. C'est une limitation que je supporte pas.
Oui, c'est une souffrance morale. Parce que parfois, vous pourriez aussi avoir des inquiétudes pour votre activité, enfin des inquiétudes concrètes. Mais là, c'est essentiellement, vous dites, une souffrance morale.
Oui, énorme. Très importante. Et s'il y a. Alors, les médecins me disent qu'on n'y peut rien. On n'y peut rien. Il faut attendre que ça passe, en quelque sorte.
Oui, face à dépend ce qu'on entend par on n'y peut rien, c'est que on ne peut pas faire sans le temps. Ça, c'est vrai, parce que c'est un corps physique, donc avec des fonctions physiques. Enfin, mais on n'y peut rien, c'est peut-être un peu radical comme façon de s'exprimer, non?
Ben, il n'y a pas de médicaments, ça veut dire qu'il n'y a pas de médicaments à prendre.
Ils n'y peuvent rien. Les médecins.
Ils n'y peuvent.
Ce qui, voilà. Alors, on va pas, évidemment. Ben oui, parce que. Mais là, bon, c'est normal, hein, c'est humain, chacun a tendance à parler de son propre point de vue. On n'est pas là pour critiquer les médecins. Mais effectivement, quand un médecin vous dit on n'y peut rien, c'est que les ressources de la médecine, à un moment donné, sont limitées. Enfin, en revanche, vous n'y pouvez pas rien, parce que le travail, enfin, vous devez l'éprouver chaque jour, c'est vous qui le faites pour récupérer vos fonctions.
Oui, mais j'arrive pas à m'y faire. Si vous voulez, j'arrive pas à élaborer, mentaliser le fait que je sois diminué, en fait. Même si c'est temporaire, hein. c'est temporaire.
Alors justement, mais... le fait que ça soit temporaire, est-ce que ça vous aide à concevoir la chose? Ou est-ce que dans votre tête, vous avez l'impression que vous pourrez être définitivement limité? Comment vous voyez les choses?
Non, définitivement non. Je vois ça plutôt comme un très mauvais moment à passer.
En oui. Fait. Donc déjà, vous moment. Avez de l'espoir si vous dites ça.
Oui, oui. Oui, parce que j'ai été secouru très rapidement.
Oui.
Très rapidement. Fort heureusement, et on m'a fait on a nettoyé le vaisseau bloqué, en
oui.
quelque sorte.
Oui.
Voilà, ce qu'on appelle une thrombolyse. Voilà. Oui. Donc ça a été fait très rapidement, ce qui a permis de limiter les dégâts, en quelque sorte.
Hein. Oui. Oui, là, effectivement, vous avez, c'est le meilleur cas possible, la prise en charge très rapide. Vous avez voilà. passé assez peu de temps à l'hôpital.
Une semaine, en tout, hein.
Oui, oui, oui. Donc c'était plutôt un bon pronostic si vous êtes sorti au bout d'une semaine et que vous avez commencé tout de suite, j'imagine, la rééducation, c'est ça?
Oui, immédiatement.
Vous êtes bien entouré de ce point de vue-là?
Oui, il y a une orthophoniste, il y a un kinésithérapeute,
oui.
et un neurologue que je peux voir quand je le souhaite.
D'accord. Oui. D'accord, donc tout est en
donc,
place.
Donc oui, je suis assez bien entouré. Mais ce qui me gêne, c'est cette fatigue, arrêter, recommencer, tout ça, c'est... Alors, les médecins me disent que ça va revenir.
Voilà. Oui. Alors ça, c'est la première question, Robert. Est-ce que vous êtes dans l'intime conviction que ça va revenir? Est-ce que vous avez cette confiance-là?
Pas vraiment.
Alors, qu'est-ce qui empêche que vous fassiez confiance? Parce que je suppose que c'est pas pareil du point de vue d'une épreuve morale de se dire oui. qu'on est dans une épreuve transitoire. Effectivement, comme vous le disiez, c'est un mauvais moment à passer. Et de se dire qu'on est dans une vie diminuée. Donc, c'est pourquoi je vous pose cette question. Qu'en est-il de votre espoir à vous et de votre confiance dans la guérison, au fond, de
Alors,
vous
j'ai une forte tendance à ne... Comment dire? À ne pas trop supporter les épreuves, les obstacles, le temps qui passe.
Oui.
Ça, je le sais, ça. Hein. Je sais que je suis plutôt fonceur et vous voyez. Donc, j'ai tendance à être pessimiste un peu.
En fait, vous dites que c'était déjà une faille ou une fragilité
oui.
morale chez vous
oui.
avant
oui.
l'accident. Donc,
oui.
au fond, le fait que vous ayez du mal à faire face à cette épreuve. Même si oui. vous avez un certain espoir de récupérer, c'est parce que ça vous met dans une difficulté qui était déjà votre talon
oui.
d'Achille avant, c'est ça?
C'est exact, c'est vrai.
Alors,
ça, c'est exact.
Alors, est-ce que vous voulez bien nous parler de vous avant, c'est-à-dire quel était votre caractère, pourquoi vous étiez fonceur et pourquoi vous nous dites que c'était difficile pour vous de faire face à des obstacles et des épreuves?
Alors, tout ça, c'est une longue histoire, hein. Mais j'ai tendance à vouloir gagner. J'ai une mentalité un peu de gagneur, si vous voulez.
Oui.
Donc tout ce qui est obstacle, tout ce qui vient à l'encontre de ma route, en quelque sorte,
oui.
je le prends mal.
Oui.
Je le prends mal.
Comme
vous
le prenez comme quelque chose qui vous met en situation de défaite.
Voilà, exactement.
Et quand vous dites, donc vous êtes entré assez tôt dans un esprit compétitif, est-ce
oui.
que votre histoire vous a amené à vous comparer, à entrer en rivalité? Est-ce qu'il y a eu des choses difficiles de ce point de vue-là?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Vous
ça,
avez...
c'est très très clair, hein. il y a une rivalité, une compétition, une volonté d'être le meilleur en quelque sorte, qui est déjà très forte hein, avant.
Et ça, bon, peut-être vous souhaitez pas, si c'est trop personnel, en parler à l'antenne, mais est-ce que vous identifiez pourquoi il y avait ça dans votre vie? Est-ce que vous, entre vous et vous le savez pourquoi il y a
ça? Oui, parce que en deux mots, hein, je veux pas
oui.
trop rentrer dans les détails.
En tout cas, c'est comme vous voulez vous. Moi, je vous écoute.
Non,
en fonction de ce que vous souhaitez dire.
Non, j'ai eu des parents qui m'ont totalement dévalorisé.
Ah.
Oui. Ça remonte à loin, hein, maintenant.
Oui.
Ça remonte à loin,
oui,
mais
oui.
ça joue sur mon histoire personnelle.
Oui. Ils vous ont dévalorisé. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, comme croyance, par rapport à vous-même?
Ah, que j'étais pas bon et que je devais montrer sans arrêt que j'étais le meilleur, en quelque sorte. D'où cette course à l'infini
oui.
qui se termine pas. et qui montre, enfin qui tend à démontrer à qui que je suis le meilleur, ce qui n'est pas vrai, bien entendu. Je suis pas le meilleur, mais il y a cette idée comme quoi je dois être le meilleur de partout.
Donc c'est une forme de compensation finalement. Pour voilà. vous, l'antidote que vous avez trouvé à la dévalorisation parentale, c'est oui. un esprit de compétition qui vous mettrait toujours en haut du tableau.
Et voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, parce que je vous ai dit pourquoi, je ne peux pas en dire plus ce
je
soir.
Comprends.
Mais voilà, quand on a été dévalorisé...
Oui.
par ses propres parents, hein. On en garde quand même des séquelles importantes.
Vous avez raison d'insister quand vous dites par nos propres parents, parce que quand nous sommes enfants, nos parents, c'est la parole divine, c'est la parole voilà. de la vérité absolue. Donc même si nous avons nos défenses comme enfants, qu'on peut prendre un petit écart en se disant que c'est pas forcément vrai, il y a une part de nous qui intègre cette parole-là, presque la télécharge d'une certaine façon. Et ensuite, dans un certain lieu de notre esprit, ça devient comme un programme automatique. Tu es nul, tu es mauvais. Et vous luttez en permanence. Vous avez développé ce qu'on appelle une formation réactionnelle en psychanalyse. La formation oui. réactionnelle, c'est l'antidote psychique. Votre antidote psychique à vous, c'est d'utiliser votre énergie qui doit être très importante à la base pour entrer dans une forme de lutte qui oui. vous hisse à la position du meilleur, qui à ce moment-là vous rassure et sert à contredire la parole parentale que vous avez intégrée dans votre esprit.
Vous avez tout dit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'où l'idée de refuser les limites, de ne pas prendre en compte toujours la réalité. Ça crée une forme de comment dire,
de course en avant, comme vous disiez
oui,
tout à
oui,
l'heure.
Oui.
Ben oui, parce que on comprend bien, Robert, que pour vous, si vous acceptez la limite, ça vous renvoie pour l'instant de l'autre côté du balancier. C'est ou bien je suis le meilleur, ou bien je suis le bon à rien que décrivaient mes parents. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe dans votre esprit.
Inconsciemment.
Pour part inconsciemment. Donc on comprend que pour vous, accepter la limite, il n'y a pas de position au milieu. Ça vous envoie... L'alternative, c'est si tu n'es pas le meilleur, tu es l'être inférieur qu'on a décrié, qu'on a nommé comme tel quand vous étiez enfant.
Exactement ça.
Et votre AVC, finalement, ouais. vous met face à la plus grande difficulté psychique de votre vie. Elle vous met face à votre faille.
Exactement. Surtout que je ne m'y attendais pas. Hein. Je veux dire, ça. Enfin, il y avait des signes avant-coureurs quand même. Hein.
Ah bon ? Comme quoi, par exemple ?
Il y avait des signes. Je ne me sentais pas bien, quelquefois. Vous voyez ?
Oui,
vous aviez très bien.
Des maux de tête, des choses comme ça ?
Des vertiges, plutôt.
Des vertiges, plutôt.
Qui sont... Des vertiges qui sont un peu accentués avec l'AVC et qui sont... Oui, il y avait des signes avant-coureurs, on peut dire ça. Mais, comme d'habitude, je n'en tiens pas compte.
Oui, vous êtes entré dans la logique que vous connaissez, qui est celle du combat pour surmonter immédiatement. Et vous prouvez que vous continuez à avancer quand même.
Voilà, exactement.
Ben oui.
C'est exactement ça.
Vous savez, ce qui vous arrive, j'ai été frappée par les termes que vous avez employés dès le début de votre témoignage. Vous avez dit qu'il y a un immeuble qui vous est tombé dessus, donc c'est une image extrêmement violente.
Enfin, oui.
Pour vous, l'accident, ça a été quelque chose de traumatique en soi. C'est la catastrophe absolue dans votre vie. En fait, ça vous met aussi, dans la mesure où ça vous met face à votre faille psychique, ça m'évoque quelque chose qui sont dans des textes spirituels anciens. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est les manuscrits de la Mère Morte. Il y a une expression que je trouve très belle et dont je parle parfois à mes patients au cabinet. Ça s'appelle la nuit obscure de l'âme. Et la nuit obscure de l'âme, c'est notre épreuve de vie la plus difficile, celle qui nous met parfois face à notre plus grande fragilité. Mais si nous arrivons à la surmonter, si nous évoluons, parce que c'est un enjeu d'évolution, nous en tirons une force qui nous rend... Alors, pas indestructibles, c'est pas une question de, d'être des robots, mais qui nous donnent une force vitale, une confiance qui va nous porter pour le reste de notre vie. Et au fond, dans ces textes-là, moi, je trouve ça très beau parce que c'est assez représentatif de ce qui peut se passer dans une vie humaine. Si nous traversons notre nuit obscure de l'âme, que nous trouvons des ressources, que nous faisons face à notre plus grande faille et que nous guérissons, ensuite on en tire une force de vie qu'on inconnue auparavant. Ben, je trouve que c'est un peu ce qui vous arrive, c'est-à-dire que cet accident, alors on va pas essayer de trouver des significations, c'est assez mystérieux, mais votre accident vous a mis face à votre plus grande peur, votre plus grande faille. Donc il me semble que là, pour vous, Robert, c'est une occasion d'évolution. Est-ce que, au-delà de la rééducation, c'est pas l'occasion pour vous de sortir d'un système psychique purement compétitif pour entrer dans une autre façon de faire avec le monde, les choses, les gens?
Oui, oui, je pense que oui. Déjà par la force des choses.
Oui.
Je suis moins.
Ah ben oui.
Je suis moins opérationnel.
Déjà, vous pouvez pas faire autrement.
Voilà, je ne peux pas faire autrement. Et puis oui, oui, c'est l'occasion peut-être de réfléchir à ce qu'a été ma vie jusqu'à présent.
Oui.
C'est-à-dire une fuite en avant, enfin une course en avant. Et peut-être d'envisager les choses d'une autre façon.
Oui, c'est l'occasion parce que si par expérience au cabinet, il arrive des accidents très graves dans la vie d'une personne, évidemment que c'est une catastrophe, il aurait mieux valu que ça n'arrive pas. Mais ce sont aussi parfois des coups d'arrêt à un système de fonctionnement moral, psychique, relationnel dans lequel on est enfermé. Et à l'occasion de cet accident, la personne a l'opportunité de guérir ce qui n'avait pas été guéri et d'entrer dans un fonctionnement psychique plus élaboré qui la sert davantage pour la suite de sa vie. Parce que c'est épuisant, l'énergie du combat, comme ce que vous avez mené toute votre vie.
Oui, oui, oui. Et je vous en ai donné les causes, hein. Je vous en ai donné des causes.
Oui, j'ai bien entendu.
Oui, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à autre chose, à une autre façon de voir les choses.
Et ça, si vous décidiez de le faire, vous savez, c'est l'occasion d'envisager une thérapie peut-être, parce que la thérapie, c'est pas toujours pour des circonstances extrêmement aiguës, où on a des symptômes brutaux. Parfois, la vie nous présente des épreuves ou des occasions de réfléchir à ce qui s'est passé avant et de réfléchir à ce qu'on n'a pas guéri ou à des fonctionnements qui ne nous servent plus forcément autant aujourd'hui. Ça peut être ça aussi, ce qui emmène en thérapie. Donc peut-être que pour vous, si vous l'envisagiez sous cet angle, ça pourrait vous aider. Est-ce que vous y avez pensé déjà?
Oui, oui, tout à fait. J'y ai pensé et je vais vous donner un autre exemple.
Oui.
À cause de l'âge, si vous voulez, je perds l'ouïe. Je perds l'entente, si vous voulez. J'entends moins bien avec l'âge. Hein.
Oui.
C'est insupportable pour moi.
Ah,
c'est
insupportable
d'être diminué. Bon, j'entends encore, hein, attention. Mais y a une diminution de l'ouïe et à chaque fois, ça m'énerve terriblement.
Et oui, parce que ça vous remet dans cette logique de victoire-défaite. Pour vous, il y a les victoires et les défaites et pas d'autre alternative. Donc c'est une défaite de plus pour vous de perdre l'ouïe.
Voilà, exactement.
Mais oui.
C'est dans le droit fil de ce que je vous disais avant.
Oui. Mais c'est intéressant parce que vous avez une certaine lucidité. Enfin, quand vous l'évoquez, vous semblez savoir ce qui vous est arrivé et quelle est votre fragilité par rapport à ça. Donc aussi, si vous traitez ça dans les suites de l'AVC, c'est-à-dire si vous traitez le problème psychique que vous avez, cette combativité qui ne vous sert pas toujours... À l'occasion de l'AVC, ça peut être aussi l'occasion de le traiter pour tous les autres domaines de votre vie. Souvent, quand on guérit quelque chose dans un domaine, ça se guérit partout. Et si vous arrivez à entrer dans un autre fonctionnement que celui du combat, ça ne veut pas dire que vous ne saurez plus combattre quand il y a besoin. Vous allez toujours la garder, cette ressource. Mais si vous savez faire autrement, ça pourra aussi vous permettre d'aborder mieux d'autres choses que la vie peut vous amener, comme vous dites, des inconvénients liés à l'âge ou peut-être d'autres obstacles à un moment donné.
Oui, oui, j'ai raison.
Alors, vous avez, il y a beaucoup... Oui, vous vouliez, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, non, je vois arriver beaucoup de messages de soutien pour vous, Robert. Alors, quelque chose que vous dit Jacques. Il vous dit, Robert, après un AVC, il faut beaucoup de patience pour récupérer la plénitude de ses moyens. La précision de l'écriture est longue à retrouver. Donc, il dit qu'on la retrouve. Vous semblez plus choqué par votre accident et impatient de retrouver votre pleine efficacité au travail. Soyez confiant, faites confiance à vos ressources internes. Tous mes voeux de rétablissement.
Très aimable, très gentil. Oui. C'est très gentil.
Jacques a l'air de connaître, de savoir de quoi il parle quand il parle de récupération.
Donc on récupère l'écriture, hein, d'après ce que dit...
Voilà, il dit que la précision de l'écriture est longue à retrouver. Donc si on le lit au pied de la lettre, c'est qu'on la retrouve.
D'accord. Très bien. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont appelé.
Oui.
On ne peut pas citer tous les messages. Hein.
On les cite. Voilà, c'est qu'en fait, celui de Jacques est assez complet, donc il reprend beaucoup de termes et beaucoup de personnes vous souhaitent un bon rétablissement, vous dit de ne pas perdre courage, de surtout pas vous désespérer, que le cerveau fait son travail. Donc, il y a. Enfin, tous les éléments du message de Jacques sont aussi démultipliés avec un certain nombre de personnes. En tout cas, c'est que les personnes qui semblent avoir eu cette expérience disent qu'on récupère.
Écoutez, je tiens à les remercier beaucoup du fond du cœur.
Peut-être ce que je peux ajouter, Robert, pour soutenir votre confiance, c'est qu'en ce moment, les neurosciences progressent énormément. On est vraiment depuis le début des années 2000, où les découvertes arrivent très vite. Pendant longtemps, on a cru que sur le plan neuronal des cellules du cerveau, il pouvait y avoir des dommages irréversibles. Et plus les recherches avancent, plus on se rend compte que les capacités de guérison cellulaire sont énormes, beaucoup plus importantes qu'on ne pensait. Donc chaque fois que des découvertes nouvelles arrivent, c'est plutôt dans le sens de capacité de récupération qu'on pensait ne pas avoir et qu'on a. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un organe extraordinaire, le cerveau, qui a le potentiel de s'auto-guérir. Simplement, pour vous dire comment ça marche, c'est que ce sont des groupes de neurones qui remplissent les tâches de notre vie. Et quand des circuits ont été endommagés, il faut les recréer. Et les recréer par une démarche de concentration et de conscience, de concentration sur les mouvements que vous réapprenez. Et ensuite, au fur et à mesure que vous réapprenez ces mouvements, les circuits neuronaux s'inscrivent dans votre cerveau et ensuite, plus une fois qu'ils sont inscrits, plus ils sont utilisés, plus ils sont investis, plus ils se remettent à fonctionner naturellement et rapidement.
D'accord. C'est ce que l'orthophoniste appelait, je crois, la plasticité neuronale, il me semble.
Exactement, c'est la plasticité neuronale, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un circuit unique et sur le mode, ça ne se passe pas sur le mode un circuit brûlé, ça ne revient pas. C'est que quand un circuit est endommagé, les neurones, en fait, c'est des cellules qu'on peut dire qu'elles sont extrêmement sociables. Elles ne demandent qu'une chose, c'est se connecter à d'autres neurones pour former des ensembles complexes à même d'assumer toutes les tâches de notre vie. Donc ça se fait tout le temps, c'est cette plasticité-là dont parle votre orthophoniste. Simplement, ce qu'on commence à savoir du côté des neurosciences, c'est que ce qui permet à nos neurones de se connecter, de socialiser et de s'assembler, c'est une intention qui est du côté de notre conscience. C'est-à-dire que votre conscience a la faculté de décider ce sur quoi elle se concentre. Et quand vous êtes en rééducation, plus vous allez mettre de votre conscience dans votre mouvement, par exemple si vous dites « j'envoie mon esprit au bout de mes doigts » si vous apprenez à réécrire, et vraiment vous focalisez votre conscience, votre attention sur le bout de vos doigts, c'est une aide considérable pour que les circuits neuronaux se constituent et se renforcent.
D'accord, d'accord. La rééducation des fines, ce qu'on appelle les mouvements fins de la main.
Oui.
Il y a aussi ce travail inconscient. Oui, je comprends.
Oui, c'est ce travail mental. Vous savez, les sportifs de haut niveau savent ça. Par exemple, un danseur à l'opéra, un sportif de haut niveau, quand il doit faire un geste extrêmement pointu, il utilise beaucoup son cerveau. Il sait que s'il met son mental dans le bout de son pied, dans l'endroit qu'il doit travailler, dont il exige une performance, ça crée des circuits de neuronaux et ça permet à la performance de s'installer beaucoup plus vite et de façon plus stable. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à travailler avec votre concentration, avec votre mental. chaque fois qu'on entend parler de guérison dite miracle, enfin, quand on dit un miracle, c'est qu'on ne sait pas forcément l'expliquer tout de suite, on voit que c'est une technologie intérieure. C'est des personnes qui ont su focaliser leur conscience sur l'endroit qui a besoin de guérir pour que les circuits se fassent.
D'accord, entendu. Très bien. Donc, je vous remercie beaucoup, en tout cas, de votre... pour votre écoute.
Avec grand plaisir, Robert, d'autant que ce que vous avez, enfin, l'AVC, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher beaucoup de personnes. Vous avez insisté sur l'importance d'être vigilant pour être secouru le plus vite possible.
Oui.
Et ensuite, on sait que c'est un parcours où il y a des choses à réapprendre, mais avec des issues, et on ne peut que vous souhaiter de sortir en pleine possession de vos moyens, avec en plus des fonctionnements psychiques moins coûteux.
Oui, tout à fait.
Oui.
Merci beaucoup, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie tous les auditeurs qui ont appelé également.
Ah oui, là, ils sont bien là. Et oui, je vois leur message et je les lis en même temps que je vous parle. C'est la raison pour laquelle je m'interromps un peu. Beaucoup de messages de soutien pour vous soutenir dans votre convalescence et la suite de votre vie.
Merci beaucoup, merci. Je vous souhaite une bonne soirée.
Vous également, Robert. Au revoir.
Au revoir.
Sabine Caligari sur RTL. Parlons-nous.